Bonjour à vous tous qui nous écoutez sur Radio Arc-en-Ciel. On est heureux de passer ce moment avec vous. Bonjour Charles.
Bonjour Marie-Lou.
Alors nous sommes en pleine semaine du développement durable et nous savons tous quand même qu'est-ce que ça veut dire le développement durable.
Mais on aimerait bien. C'est pas vrai. Moi je sais pas trop bien ce que ça veut dire.
Tu sais pas Charles. Oui, ben écoute, notre invité va te raconter un peu tout ça, puis nous allons aussi parler bien entendu puisque c'est monsieur Alain Fontaine qui est responsable de la communication à l'ONF. Bonjour.
Bonjour. Et bonjour monsieur. Bonjour.
Et vous nous parlerez un peu justement de la forêt aussi qui est fragile et puis cet incendie qu'il y a eu à La Réunion hier. Bon, voilà, on va faire un peu
hélas,
le point.
Oui.
En quelques mots, vous pouvez définir cette notion de développement durable. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas trop intelligente qu'une autre, mais il faut développer tout ce qu'il y a à développer autour de nous pour rendre la vie plus facile, etc. Mais donc, il y a quand même quelque chose à faire pour faire attention à la Terre.
Oui, je pense que la semaine du développement durable, c'est une action labellisée au niveau national et voire européen. Pour rendre la vie aux côtés de l'environnement, et même dans l'environnement, la plus saine et la plus responsable possible. Ça a été initié en France en 2003 et repris à l'échelle européenne depuis 2015. Et en fait, c'est sensibiliser nous tous, sensibiliser la population aux gestes éco-citoyens.
De tous les
17,
jours
aux 17 objectifs, ils ont 17 objectifs.
Et tous les jours, dans tous les gestes que nous faisons.
Tous les jours, dans toutes nos actions, que ce soit au niveau de notre consommation, que ce soit au niveau de la consommation énergétique, dans nos modes de circulation, dans nos modes d'utilisation de l'espace naturel, c'est accompagner le grand public, accompagner tout un chacun, à être, en clair, en synthétisant, à être plus responsable vis-à-vis de ce qu'il utilise.
Parce que quand on se rend compte quand même, quand on entend parler des gens qui vivaient à La Réunion il y a 50 ans, que les gens étaient responsables, qu'ils utilisaient peu de choses, qu'ils ont dépensé moins, et en l'espace de deux générations, ça a débordé complètement.
Oui, ça va à l'encontre en fait de ce qui était faisait il y a encore quelques années, c'est-à-dire des objets qui étaient programmés pour se détruire ou pour tomber en panne au bout de quelques années. C'est fini ça, en principe.
L'obsolescence.
Ben oui, c'est en principe.
L'obsolescence programmée.
L'obsolescence programmée, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'on vit dans une époque où il y a une totale surconsommation et une facilité aiguë d'accéder. À cette consommation-là, aux biens, à la nourriture, au mode de fonctionnement, et les gens surconsomment.
Ça, c'est... Il y a un exemple inimaginable, je ne vais pas citer la marque, mais les téléphones intelligents. Ces marques qui, chaque année, mettent un nouveau modèle à des prix complètement effroyables et les gens courent après chaque année. Ils veulent le dernier modèle. Ah, alors que par rapport au modèle d'avant, il n'y a pas grand changement. Hein.
Fait de la nouveauté. Voilà. L'attrait de la nouveauté.
À des prix, mais c'est clair.
Mais, et puis alors, ce qui est terrible, quand on parle justement de ces gens qui dépensent à tout va, et on se rend compte que dans le monde, il y a des pays, il y a des populations qui n'ont rien, qui n'ont même pas d'eau, qui n'ont rien. Alors, ça doit vous poser un cas de conscience aussi, ça. Hein.
C'est une grosse différence. Une grosse différence qui, parfois, agresse quand on y pense, vraiment. Et je pense qu'il faudrait, une plus juste répartition des richesses. Et on peut noter que la conscience, elle est active dans les zones où il manque le plus.
Oui.
Quand on a beaucoup, on n'y pense pas. Oui. Hein, quand on ouvre le robinet et qu'on utilise 100 litres d'eau pour une douche, ben, j'avais rencontré quelqu'un qui, lui, avait fait l'Afrique et me disait, ben, Alain, pour une douche, on avait 1 litre d'eau.
Et on
devait l'utiliser.
Et on prenait une douche.
Voilà, c'était pas très correct, c'était même difficile. Mais ils avaient conscience qu'il ne fallait pas utiliser...
Moi, je me souviens, j'étais en pension en métropole. les douches, c'était deux fois par semaine.
Oui.
Et attendez, on était cinq, il y avait 50 douches, il y avait un top, un petit coup d'eau pour qu'on se mouille, ça s'arrêtait, on se savonnait, un petit top pour rincer et on sortait. Et il fallait aller vite. Hein.
Mais alors, si on,
faites, si ça on mettait maintenant, faites ça maintenant, on vous poursuit pour.
Mais oui. C'est pas maltraitance.
Mais il y a des gestes simples. Hein. Quand on sort d'une pièce, on éteint.
Et oui, quand ça, on oublie, ça, c'est vrai.
Quand
mais
on se brosse les dents. Ben on ferme l'eau. Quand on prend sa douche, le moment de se savonner, ben on ferme l'eau. Vous voyez, donc
il y a du travail. Hein.
Ben oui, quand on roule et qu'on doit attendre quelqu'un et quand on est dans une voiture climatisée et qu'il fait chaud, ben on prend sur soi, on laisse pas tourner le moteur. Voilà, et je ne parle pas
des... C'est la vie de tous les jours.
C'est la vie de tous les jours, la vie en éco-citoyen, et je ne parle pas des déchets qu'on laisse. Dans les milieux naturels,
et même dans les plus hautes sphères, quand on voit dans la cour de l'Élysée toutes ces voitures grosses cylindrées dont les moteurs tournent pour climatiser parce que monsieur le ministre arrive, bon, ben, il pourrait donner l'exemple.
Monsieur Fontaine, vous étiez venu, je rejaillis sur les histoires de déchets, vous étiez venu, je ne sais plus, c'était peut-être avant le Covid, parler que l'ONF a décidé d'enlever les poubelles dans tous les coins. Est-ce que ça a marché pour finir?
C'est en cours, on a des résultats probants.
Oui, ça commence.
Ouais, tout à fait. On a des résultats probants, mais il faut qu'on dise, bien sûr, que dans cette politique, elle est moins visible, comme j'avais annoncé aussi, dans les sites les plus fréquentés.
Oui. Ah.
Il faut qu'on aille beaucoup plus lentement, mais ça entre, et bon, bien sûr, il y a toujours des mauvais élèves, mais la majorité, on a fait une action dans le cadre de la fête de la nature avec le conseil départemental des jeunes. Et on a sensibilisé encore une fois sur le massif de la Petite Plaine, où il y a une fréquentation très importante. On leur a donné un sac poubelle et un dépliant, un prospectus sur les déchets en forêt. Et bien les gens qu'on a rencontrés étaient largement sensibilisés. Mais on ne va pas s'autosatisfaire. Moi, je terminerai en disant qu'il y a encore beaucoup à faire.
Et puis, ce qui se passe aussi dans les coins très fréquentés, il suffit que quelqu'un ait laissé deux ou trois mouchoirs par terre.
Ah,
et bien, les autres font pareil.
Oui.
Alors que si c'est propre, je crois que les gens hésitent quand même.
Hein, oui, tout à fait.
Donc,
ils ont peur de se singulariser
en étant les seuls. Ils se rendent compte et ils apprécient que ce soit propre.
Quand même. Et puis, quand même, vous avez aussi beaucoup d'actions dans les écoles. Donc, on dit que ça passe. Les enfants disent aux parents. De temps en temps, ils attrapent une claque parce qu'ils n'ont pas à faire de remarques aux parents. Mais ça rentre quand même.
Ça rentre. Et on a fait une opération donc il y a moins d'un mois en forêt de la Providence avec la municipalité de Saint-Denis pour accentuer ces opérations de sensibilisation au niveau des écoles. Et je pense qu'une procédure, comme dans d'autres communes, est en train de suivre et qui sera très bénéfique pour l'instruction de ces jeunes.
Les enfants sont très réceptifs à ce type d'action. Très
et ils se sentent et très responsables.
Et ils transmettent.
Et moi, je sais que j'ai réussi avec mes petits-enfants, justement, à ne pas laisser l'eau couler quand on se lave les dents. Moi, j'avais beau le dire, c'était comme si je parlais à n'importe qui. Mais je leur ai dit un jour, mais chaque fois que tu laisses couler l'eau comme ça, il y a un petit lapin dans la montagne, là, tu vois, eh ben, il n'a plus à boire, il va mourir. Ah! Eh bien, l'histoire du petit lapin, clic, il ferme le robinet. C'était ridicule.
Non,
c'est vrai, les enfants, il faut leur trouver quelque chose qui marque.
Oui.
Alors, vous parliez de la Providence. Qu'est-ce qui s'est passé récemment dans ce quartier?
Hélas, oui, hier. Hier, on a dû faire face à trois départs de feu, avec donc trois foyers. Et l'incendie avait commencé entre 3h et 4h du matin.
Oui, mais alors, ça ne peut pas être accidentel entre 3h et 4h du matin.
C'est la question que tout le monde se pose.
Et pourtant, dans des lieux, je crois, inaccessibles ou presque.
Là, par contre, ce lieu-là, c'est très sur aux abords du sentier de la Providence.
Ah, c'était aux abords quand même.
Aux abords du sentier
de la Providence. Alors, il y a un fou qui se promène en pleine nuit pour mettre le feu. Il faut le faire quand même.
En tout cas, il y a une enquête qui a été diligentée ce matin pour voir si cette action est criminelle ou accidentelle. Pardon, c'est vrai qu'au niveau des conditions, on peut se poser des questions.
La forêt est très sèche en ce moment, même à la Réunion.
C'est vrai qu'il pleut un peu ces jours derniers. Et peut-être que d'une végétation en sous-sol, peut-être encore humide, a aidé les forces, enfin les pompiers, à éteindre cet incendie. Mais on a constaté 3 départs de feu.
Surtout qu'il n'y a pas eu d'orage, il n'y a pas eu de, il n'y a pas de truc électrique, non, enfin, il n'y a rien, il n'y a aucune autre explication.
Il n'y a pas le soleil sur les tessons de bouteille.
À 3 heures du matin.
Et voilà. C'est une lune, alors donc, il n'y a aucune excuse.
C'est une lune.
mais donc, l'enquête est en cours. Les enquêteurs sont sur place même ce matin. Et on en saura plus sur les raisons et les causes.
Ils trouvent très vite les origines.
Est-ce que ces gens-là, on peut essayer de trouver dans leur tête qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est pour se faire voir, pour faire quelque chose ? Ce sont des gens qui sont mal dans leur peau quand même pour aller faire ça.
Je pense que ça relève plutôt de la psychiatrie que de la civiculture.
On n'est peut-être pas assez sévère. Là, j'ai entendu ce matin qu'un pompier en métropole a été condamné à 1 an de prison ferme, 1 an de prison avec sursis pour avoir mis le feu à 2 endroits différents. On n'est pas assez sévère non plus. Hein. Ça veut dire qu'il ne fera pas de prison, puisque un an complet, on ne l'a pas.
C'est pas sérieux. Là, c'est un domaine qui nous échappe.
Oui, mais enfin, quand même.
Mais c'est vrai que quand on voit les 70 000 hectares brûlés en métropole, que ce soit Gironde, Jura, des endroits différents...
Ça nous a fait mal, hein. Pourtant, on va pas dans ces coins-là souvent, mais
c'est
alors...
C'est clair. Et dans les personnes interpellées, il y a quand même eu une bonne dizaine de pyromanes suspectés. Donc ça pose question. En tout cas, nous, à l'ONF Réunion, en ce moment, il y a notre référent des FCI, Défense des forêts contre l'incendie, qui est à pied d'œuvre depuis hier, et qui accompagne les enquêteurs pour essayer d'y voir plus clair dans ce désastre, ce début de désastre qui a eu lieu hier.
Mais justement, à notre domaine personnel, qu'est-ce que nous, on peut faire, chacun, face à ça, au niveau de la prévention? Quels sont les gestes à ne pas faire, par exemple? Jeter sa cigarette par la fenêtre,
par exemple,
allumer un feu, ne pas l'éteindre, enfin, je ne sais pas. Quels sont les gestes?
À l'ONF, on mène une grosse action quotidienne aux côtés des pompiers, aux côtés de la gendarmerie, aux côtés même du parc national, aux côtés des institutions, pour une surveillance, et on met en place un plan de protection des forêts contre l'incendie. C'est un plan départemental.
Elle est tellement vaste, cette forêt réunionnaise.
Voilà, mais c'est pour ça qu'on est plusieurs partenaires.
Ça date de 2017.
Surveiller. Sous le pilotage de l'EMZ, état-major de zone de la préfecture, qui valide ce programme, qui est largement piloté par l'ONF. Et à l'ONF, pour pas parler de sa maison, mais on a vraiment des gens qui sont sensibles à ce phénomène et formés pour transmettre ces informations. Donc, on a des patrouilles qui se mettent en place. En période de risque moindre,
c'est-à-dire au mois de janvier-février où il va commencer à pleuvoir beaucoup.
Exactement. Dans ces périodes-là, on a des degrés de risque qui vont de risque faible à risque exceptionnel, et on a une surveillance partenaire, et on relève régulièrement de janvier à août. C'est une vérification qui est mensuelle, et de août à la fin de la période de risque incendie avéré, très très fort, c'est un prélèvement hebdomadaire. Prélèvement de quoi ? C'est-à-dire qu'on contrôle ce qu'on appelle le stress hydrique.
Voilà,
de la
vous allez regarder si c'est vraiment très sec à un endroit.
Tout à fait. Voilà.
Donc il y a plus de danger.
Voilà, on a les forestiers. Collecte déjà les végétaux qu'on dit morts, c'est-à-dire qui se trouvent au sol, qui constituent la litière, etc. Et ils prélèvent aussi les végétaux vivants, et ils constatent, ils ramènent tout cela à notre référent des FCI, qui, avec les mesures de contrôle, peut transmettre le degré de risque aux services préfectoraux et aux partenaires. Donc, on a une surveillance dans différentes zones. Vous parliez de la superficie qui était large. Mais donc, on a des zones qui sont déterminées. Et on a la zone nord-est, par exemple, qui comprend la Providence, la montagne, la plaine d'Afouche, la Grande Chaloupe, Mamode-Caen, ou par exemple la Mafat, Côte sous le vent. Et là, on est en plein sur le Maïdo, la Glacière, Piton-Fougère, les Hauts du Tévelave. Donc, ces forêts dites sèches qui sont le plus exposées.
Excusez-moi, mais elles ont toujours été sèches? Et il n'y avait pas d'incendie?
C'est l'écosystème de la zone. Hein,
il y a 50 ans, il n'y avait pas d'incendie, comme ça aussi?
Je ne suis pas sûr.
Je ne sais pas.
On n'en entendait pas parler, en tout cas.
Les incendies, l'impact des incendies, le danger des feux de forêt, à mon avis, ça a toujours existé. Mais plus on sera nombreux sur ce caillou, et je parle de La Réunion, plus il y aura de la fréquentation. Hier, on parlait, le sentier de la Providence a été la cible de 3 foyers. Eh bien, on note sur ce sentier pas moins de 150 000 passages par an.
Ah oui, bien sûr.
En matière de forêt périurbaine.
Par jour.
Vous vous rendez compte? Donc, 150 000 passages avec des gens qui sont bien intentionnés ou alors qui sont parfois imprudents ou négligents.
Alors, la protection des milieux forestiers, c'est tout votre travail. Là, vous venez de nous en parler. Mais c'est un travail énorme, énorme. Comment faites-vous? Est-ce que nous tous, on a notre petit rôle à jouer? Oui, chaque fois, même quand on va marcher sur ce fameux sentier, s'il y a quelque chose qui nous choque ou autre, on voit quelqu'un qui agit, il faut en parler.
Je pense que déjà, il faut se parler. Il faut... c'est vrai que les gens vont tout de suite dire non, il ne faut pas tomber dans la délation ou quoi.
Absolument.
Que ce soit. Mais je pense qu'entre humains, on peut échanger.
Exactement.
Il y a manière de le faire, sans agressivité, sans agression.
Oui, ça peut être dit gentiment.
Voilà, exactement. Partager sa façon de voir les choses. Et échanger avec la personne. Et plus on aura des regards qui suivent ce que l'on fait, je pense que les personnes vont plus réfléchir.
Ils vont prendre conscience de ce qu'ils font.
Voilà.
Par exemple, quand on voit quelqu'un dans la forêt du Maïdo ou autre qui allumait un barbecue les flammes montaient comme ça, ils prenaient tout ce qui était par terre, on peut le dire quand
bien
même, on doit le dire.
Et on a un arrêté qui date, un article plutôt du Code forestier, l'article R133.2, qui interdit, et là de tout temps, qui interdit d'allumer un feu à moins de 200 mètres d'un espace boisé.
Ah oui.
Sous prétexte d'une amende.
Ça enlève les 90% de...
C'est partout, pratiquement.
À l'ONF, c'est pour cela que comment on fait passer cette information et cette sensibilisation, et qu'on équipe les aires d'accueil par des places à feu.
Voilà.
Qui sont d'autant plus, acceptées, qu'elles sont faites dans une grosse pierre, taillées dans une grosse pierre, donc d'autant plus intégrées au paysage, intégrées au milieu. Et si on peut ne pas faire du feu du tout en forêt et manger, entre guillemets, froid ou tiède, un sandwich, on n'a pas besoin de feu, ou alors un curry préparé le matin et amené en forêt.
Il faut changer d'habitude, c'est déjà ça.
On peut déjà protéger le milieu comme ça. Et une chose à ne pas faire, et les forestiers, surtout au Maïdo, on insiste là-dessus, comme ça s'est passé en Gironde, comme on a eu l'exemple en Gironde, ou ailleurs, c'est ne pas faire du feu à même le sol.
Ah oui, c'est parce que c'est toute cette épaisseur d'humus et autres.
Voilà, ce qu'on appelle au Maïdo la voune, toute cette épaisseur de feuilles séchées. Et surtout, ces feuilles, ce tapis de feuilles, il peut se positionner sur un sol rocailleux, c'est-à-dire qui n'est pas hermétique, où l'air peut passer.
Et le feu se propage très vite alors.
Il se propage en sous-sol, et ce qui est éteint là peut tout à fait reprendre 200, 300 mètres.
Ah, c'est pas possible.
C'est le gros problème.
Pour la tourbe.
À ce point-là, pareil.
Voilà.
Le feu de tourbe,
c'est ça.
Je pensais que ça ressortait, qu'on pouvait le voir.
Non, pas du tout. On a des galeries souterraines. Comme si il y a de gros ventilateurs.
Doucement.
Avec des tuyaux. Et qui propagent le feu dans des zones beaucoup plus éloignées. C'est le gros problème des interventions des forces de sécurité, des pompiers, qui parfois se font encercler ou qui évitent de se faire encercler avec un feu qui est difficile à maîtriser.
C'est pour ça qu'à la télé, on voit souvent des pompiers, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font sur un terrain qui a été complètement brûlé et qui
ils sont en train d'arroser
pendant des jours entiers. C'est qu'il faut les mouiller dessous. Quoi.
Tout à fait. Et on sensibilise la population. C'est une très bonne remarque. Quand on fait un barbecue en forêt ou quand on fait un foyer, on n'éteint pas son feu, on le noie. Il suffit pas de verser un peu d'eau, vraiment, on noie.
Oui, mais alors là, les gens, ils pensent qu'ils ont bonne conscience. Ils disent, oh, je ne vais pas perdre 2 litres d'eau, là.
Eh bien, il faut le faire, parce que si on ne perd pas 2 litres d'eau, on perd des hectares de végétation. Voilà, voilà, donc la balance, elle est vite faite. Voilà, donc on sensibilise, on va le faire vendredi, dans le cadre de cette semaine de développement durable.
Où est-ce que vous allez faire cette journée?
Alors, on a une grande manifestation, et merci de me donner l'occasion d'en parler. Et
alors, en forêt de l'étang salé. Voilà. La forêt de l'étang salé, c'est une forêt sèche, ça?
C'est une forêt sèche, et c'est un terrain bien adapté pour sensibiliser sur le risque d'embrasement d'une forêt. Forêt sèche, qui plus est, s'il y a une négligence et si on n'a pas, on n'applique pas les gestes, les bons gestes éco-citoyens.
Qu'est-ce qu'on entend exactement par forêt sèche ?
Eh oui.
Ben, la forêt sèche de l'étang salé, c'est déjà une forêt qui est dans une zone qui n'est pas tellement arrosée.
Et c'est d'accord. Des espèces d'arbres particuliers.
Voilà, c'est l'environnement qui est sec, alors.
C'est l'environnement qui est sec. D'accord. C'est une pluviométrie qui est faible hein, qui est moindre, avec des arbres comme le cassier de bois noir, le cassia de Siam.
Et ça flambe facilement.
Et ça flambe facilement. Parce
surtout
que,
en décembre, enfin, dans la période en décembre, ça doit flamber vite. Hein.
Exactement. Ce que le nord ou l'est reçoit comme pluie, du côté de l'étang salé ou du sud, il y en a beaucoup moins.
Et puis il y a les vents en plus.
Voilà. Ouais. Qui attise tout ça.
Est-ce que tout le monde peut aller cette journée, la vendredi? Alors, 30, à 9h30 à la forêt de l'étang salé? Ouais. Alors, on peut aller tous?
Cette belle opération, donc, pilotée par le service communication de l'ONF, aux côtés de ses partenaires, que je profite pour remercier, on a le SDIS qui sera présent, on a le conseil départemental des jeunes. Il y aura pas moins de 50, une soixantaine de représentants du conseil départemental des jeunes qui seront là et qui seront animateurs. On a la mairie de l'étang salé qui nous prête donc son appui et qui invite pas moins de 105, de 4 classes, plus d'une centaine de gamins pour visiter donc cette manifestation. On va en parler plus loin si vous voulez. Et les personnels de l'ONF, bien sûr, qui sont à pied d'œuvre. Et cette manifestation, qui démarre à 9h, bien sûr, cette matinée, elle est dédiée aux scolaires et aux jeunes.
Oui.
Parce que c'est vrai le grand public, mais oui. Le grand public n'est pas oublié. Mais pas sur cette matinée. C'est vrai qu'on est en contact avec le grand public, on fait des foires, des expositions, et tous nos messages de sensibilisation sont à destination de vous autres. Hein,
et voilà, ça passe souvent par les enfants et les collégiens.
Voilà. Donc, et sur ce site de l'ancien jardin d'oiseaux de l'étang salé, vis-à-vis de Croque Park, en fait, il y a pas moins de 6 ateliers qui seront en place, 6 ateliers ludiques. Déjà, il y aura l'agent forestier de l'unité de l'étang salé qui va accueillir les enfants pour leur présenter la vie de cette forêt et comment on la gère, quel type de forêt et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire hein, dans cette zone, donc, de ce milieu naturel. Et ensuite, donc, on a préparé des ateliers où on va leur expliquer ce dont on parlait tout à l'heure. Le stress hydrique. Ils vont approcher de cette problématique-là. Ils vont même participer. Un autre atelier, ils vont rencontrer les pompiers et le camion de surveillance des FCI de l'ONF.
Qui a de l'eau et tout ce qu'il faut. Hein,
et il y aura une démonstration de lance à incendie pour que les enfants voient puissance et...
Ça va les amuser en plus.
Ça intéresse toujours. Et ensuite, il y a même des ateliers ludiques. Il y a des ateliers où il y a les jeux des 7 familles.
Ah bon ?
Par exemple,
oui, c'est vrai, tiens.
Il y a des jeux où sont mis en place des quiz ou des jeux de mémoire. Et ensuite, il y a un atelier détente, dessin. Et avec les animateurs, les représentants du conseil départemental des jeunes, il y aura même un sondage à l'extérieur du site.
Pour voir ce qu'ils ont retenu ?
On va approcher le public. Parce que c'est un endroit qui est très fréquenté par les randonneurs, les joggeurs, pour leur faire un sondage et un petit questionnaire pour voir comment le public comment adhère à cette opération.
On est déjà presque à la fin de l'année. Quand je pense aux pétards et aux feux d'artifice de fin d'année, est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a deux ans, il va y avoir une interdiction?
C'est de plus en plus interdit maintenant.
Interdiction qui
Vous pouvez travailler en ce sens.
Nous, on donne des indications, on donne des avis. Mais ce domaine est piloté et légiféré par la préfecture.
Parce qu'on a vu en métropole les feux d'artifice du 14 juillet, il y en a beaucoup qui ont été annulés.
Mais ici, c'est particulier, c'est très, c'est très ludique, c'est pétard.
Voilà, je ne veux pas parler au nom des autres, mais moi, mon avis personnel, les lanternes chinoises.
Ah, les lanternes, c'était une catastrophe.
Folie. C'est un grand danger. Elles peuvent s'éteindre en forêt.
Ça, c'est interdit, je crois, déjà, non ?
C'est interdit.
C'est très bien. Les fusées, les manifestations en bord de plage, tous les fusées qui atterrissent dans le lagon, c'est une grosse nuisance. Ce sont des déchets. Et il faut voir aussi l'état de la plage le lendemain, quand c'était permis.
Et ça peut mettre le feu à côté.
Voilà, moi personnellement, je ne suis pas très favorable. Non. Et ça ne dépend pas de nous, c'est les communes.
Mais il y a une tradition là aussi.
Mais je crois qu'il y a une sensibilisation au niveau de nos élus.
Et puis, progressivement, ça va rentrer dans la tête. Autre chose.
Après la fête, il y a les gens qui n'ont pas fait la fête et qui veulent quand même profiter de l'endroit.
Moi, j'ai vu atterrir dans un immeuble, sur une terrasse, un petit parachute, je ne sais pas quoi, avec un truc allumé dedans.
Oui, c'est ça.
Ça tombe dans la forêt, c'est de la folie.
Moi, il m'est arrivé de faire le sentier du Colorado très sec, et j'ai retrouvé les armatures de chandelles chinoises. Oui. C'est des armatures en fer qui vont rester Voilà. Donc,
il nous reste une minute pour parler de la responsabilité de chacun déjà. Cette forêt superbe, cette réunion superbe dont on a la joie de profiter, eh bien, elle nous appartient à tous. C'est, comme dit le pape, c'est notre maison commune. C'est notre maison commune. La forêt, on est tellement content d'aller pique-niquer, les touristes y vont. C'est un bien énorme.
Et les animaux.
Il faut tout faire.
Mais oui, mais c'est
et on n'a pas planté des plantes qui sont non plus brûlées et autres qui disparaissent.
Disparaître dans un incendie. Oui. Mais c'est pour ça que, encore une fois, merci à vous de nous accorder ce moment. Merci aux médias qui nous suivent et qui relaient régulièrement ces messages-là. Et on aura, après cette matinée de vendredi, après ce rendez-vous à l'étang salé, on aura près de 150 sentinelles qui seront formées. Qui vont toucher la problématique incendie avec les partenaires et l'ONF, et qui seront nos relais.
Justement, je me balade avec mon portable en forêt et je vois un départ de feu. Qu'est-ce que je fais?
Vous prévenez le...
Qui
vous prévenez
le 17
le 10. Le, voilà. Vous,
le quel quoi le 17
le 17, ou le 17, pour les pompiers. Et ensuite, après, il y a tout cela qui se met en
17,
route.
17, c'est la police, il me semble.
Ou le...
Je ne sais pas, on regarde.
Là, je l'ai... Attendez, je...
Après, du coup, on a tellement l'habitude d'entendre ce numéro...
Oui, je crois qu'il faut prévenir.
On va le chercher, on le dira là-bas.
Il faut avertir donc
les autorités.
En tout cas, vous êtes nos anges gardiens, là. Les anges gardiens de la forêt, déjà.
Et merci. Et avec ce genre d'opération, comme il y aura vendredi et tout au long de l'année, on n'est pas seul. Et on gère la forêt, mais la forêt, elle est publique. C'est-à-dire qu'elle appartient à tout le monde.
Absolument.
Et tout le monde doit en être responsable.
Voilà. Et puis là, je vois même, on a parlé, la météo a parlé en disant qu'ils projettent, ils pensent que jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura pas beaucoup de pluie sur l'Est et tout. Alors je me dis, c'est vrai, donc on peut prévoir un peu plus.
Et notamment, et là, tu abordes un véritable problème, il n'y a pas de pluie, et quand il y a un incendie, on souffre aussi du phénomène du réchauffement climatique et d'une sécheresse aggravée.
C'est le 18, hein?
Il y a de quoi parler et vous êtes invité à venir dans nos studios quand vous voulez. Merci beaucoup, Monsieur Fontaine. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication à l'ONF. Merci beaucoup d'être venu.
Merci, c'est un plaisir.
Au revoir.
Au revoir, monsieur, et merci.
Au revoir, Charles.
Au revoir, Marie-Lou. Au revoir, Didier, et merci.